7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Sujet éducation, comme chaque vendredi, l'apprentissage des langues aujourd'hui.
Good morning.
Good morning.
Good morning, Nicolas.
Good morning.
Come on, everyone. School things on the table. 1, 2, 3, on stay. Chut. Concentration. C'est parti.
Les élèves français sont moins bons en anglais que leurs voisins européens. Seulement 8% des Français de 15 ans maîtrisent le niveau B2, le niveau intermédiaire en anglais, contre 57% des Suédois du même âge. Alors comment expliquer ce décalage? Qu'en est-il sur le continent africain, où près de 85% des enfants se voient obligés, en entrant à l'école, d'apprendre dans une nouvelle langue, une langue qu'ils n'ont jusque-là jamais parlé? Alors quels outils peuvent être utiles pour faciliter l'apprentissage des langues étrangères? On peut penser à des dessins animés en version originale, bien sûr, à des applis sur smartphone, on en parlera. En France, un rapport vient d'être rendu sur le sujet au ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, et nous sommes ravis de recevoir l'une des co-auteurs de ce rapport, Chantal Manès-Bonisseau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes inspectrice générale de l'Éducation nationale. Avec vous, nous allons dresser un état des lieux de la situation en France et bien sûr, détailler les pistes de solutions que vous préconisez. Et cet apprentissage doit avoir lieu le plus tôt possible. Ça, c'est votre credo, Mathieu. Mathias Benoît Lévy, bonjour.
Bonjour.
Vous avez cofondé Babylang, un organisme qui propose des cours et même des moments d'immersion en langue pour enfants et aussi pour bébés. Alors et vous, les voisins, les voisines, combien de langues parlez-vous? Que pensez-vous de la qualité des cours de langue à l'école et notamment des cours d'anglais? Si vous êtes parents, quelle langue apprennent vos enfants? Et bien sûr, vous n'hésitez pas à nous appeler si vous-même vous êtes enseignant d'anglais, d'espagnol et j'en passe. On vous attend au 33 1 84 22 71 71 et comme toujours vous nous écrivez sur Facebook et Twitter.
7 milliards de voisins.
On est tout proche.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins et la planète se parle.
Et vous nous écrivez déjà sur Facebook, les voisins. Je vous lis le message de Michel en RDC. Moi, je parle quatre langues, le lingala, le swahili, le français, le bangala et même la langue des signes. J'apprends aussi l'anglais, mais j'ai des soucis sur la prononciation et la conjugaison des verbes. J'ai du mal aussi à pratiquer. Pourtant, l'anglais me tient vraiment à cœur. Alex nous écrit, lui, de Brazzaville. Je le cite, « Dans l'intérêt de vite parler anglais, je regarde la télé en anglais, mon téléphone est maintenant en anglais, je lis même la Bible en anglais. » Et j'écoute aussi de la musique en anglais. Je vous lis également le message de Fanny à Berthois au Cameroun. Mon rêve a toujours été de parler anglais comme les Américains. Malheureusement, j'ai évolué dans un système éducatif francophone. Au secondaire, j'étais en série scientifique. Ce n'était pas évident de laisser les maths de côté pour se concentrer sur l'anglais. Mais aujourd'hui, le fait que je travaille depuis 5 ans dans une entreprise anglo-saxonne m'a beaucoup aidé à améliorer mon anglais. Maintenant, je prends plaisir à regarder les films nigérians sans sous-titres en anglais. Et j'ai compris que l'environnement nous influençait énormément au cours du processus d'apprentissage d'une langue.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Bonjour, je parle le français. I speak English. Ahlan marhaba bukum. Ana atakallam bil lugha al arabiyya.
Je parle l'espagnol, l'anglais et même le français, y compris les langues vernaculaires.
Bonjour, je parle français. Hello, I speak English. Hola, hablo español.
Je parle le français et je suis en train d'apprendre l'anglais. Je parle aussi le swahili et je voudrais encore apprendre plus.
Message de voisins recueilli sur WhatsApp par Yann Leny. Alors un rapport intitulé « Pour une meilleure maîtrise des langues » vient d'être remis au ministre français de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Chantal Manès-Bonisseau, vous l'avez donc coécrit. Quel peut déjà être le bilan qu'on peut dresser sur ce sujet-là en France ?
Bonjour, d'abord merci beaucoup de m'avoir invité dans cette émission, de me donner l'occasion de présenter un peu l'essentiel de ce rapport. Je voudrais saluer également mon copilote, mon co-auteur Alex Taylor, journaliste français d'origine britannique et européen, qui n'est pas là aujourd'hui mais qui est là avec nous par la pensée et qui a beaucoup travaillé avec moi sur ce rapport. Alors effectivement, je vous remercie de commencer par la question du bilan. Ce rapport a d'abord un objectif, c'est d'essayer de porter un discours un peu plus positif, un peu plus ouvert sur l'avenir concernant l'enseignement des langues en France. Pas uniquement de l'anglais, mais bien de toutes les langues enseignées qui sont nombreuses dans notre système éducatif. Alors, il est vrai que nous avons donné une date qui est un peu une date charnière, qui est 2006, date à laquelle nous avons lancé en France un grand plan de rénovation des langues ambitieux qui s'est rattaché à des critères et à une échelle de niveau européenne du Conseil de l'Europe, le cadre européen commun pour l'enseignement des langues. Nous avons fait beaucoup de progrès depuis, notamment dans l'enseignement primaire. Et la première partie du rapport s'attarde sur des chiffres très précis, sur les évaluations que nous avons menées à trois dates qui permettent de mesurer le progrès des élèves. Donc il est certain que les élèves jeunes dans le primaire, au collège également, ont fait des progrès essentiellement à l'oral, ce qui est logique puisque nous avons vraiment tenter de mettre l'accent sur les compétences orales.
Il y avait un retard aussi à rattraper.
D'ailleurs, ce bilan est encore une fois positif et lucide, il n'est pas du tout contradictoire, et nous insistons sur le fait qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Vous avez cité des chiffres qui relèvent d'une enquête européenne, qui a été menée au niveau du lycée cette fois, et qui montre que le niveau des élèves en France reste, nous sommes très mal classés dans parmi nos partenaires européens. Donc il y a beaucoup de travail. Cependant, nous estimons, c'est ce que le rapport dit, que nous sommes sur la bonne voie, qu'il ne s'agit pas de faire table rase des réformes que nous avons mises en place depuis 2006, mais de continuer et puis surtout d'accélérer l'exposition des élèves, d'accélérer les progrès que nous faisons, de sensibiliser dès le plus jeune âge. Vous avez parlé d'enseignement précoce, c'est certainement une des recommandations importantes.
Alors dans le rapport, on parle de l'âge de 11 ans.
L'âge de 11 ans n'est pas la date de démarrage, mais une étude récente qui a été publiée, nous y faisons référence dans le rapport, montre que l'âge de 11 ans est un peu l'âge où le maximum des compétences peut se fermer. Moi, je n'aime pas tellement fermer les possibilités à l'âge de 11 ans, je trouve que c'est assez contre-productif, mais n'empêche que les études et les recherches montrent qu'effectivement, plus on commence tôt et plus les enfants sont très sensible à la phonologie. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas apprendre une langue après, mais c'est que vous aurez beaucoup plus de difficultés à l'apprendre en ayant un accent qui soit bien
en place.
En
fait.
Voilà.
Mathias Benoît Lévy, justement avec Babylang, vous proposez de transmettre les langues étrangères très tôt, à partir de l'âge de 9 mois.
Absolument. Dès que les enfants ont la capacité de s'exprimer, on peut commencer à travailler avec eux, à échanger, toujours dans le cadre d'une relation. C'est-à-dire que nous, on considère que la langue ne se transmet que lorsqu'il y a une logique relationnelle, c'est-à-dire que les enfants sont en contact avec quelqu'un qu'ils côtoient régulièrement. Quelqu'un, au début, ça peut être évidemment un membre de la famille. Il faut quand même rappeler qu'il y a il n'y a plus des deux tiers des humains sur Terre qui grandissent dans un environnement bilingue, voire parfois plurilingue, parce qu'il y a des gens de la famille qui parlent des langues différentes et que les enfants sont sollicités dans des langues différentes par des proches avec lesquels ils ont une relation riche. Donc ça, il faut pas l'oublier. Donc nous, on a essayé à notre niveau évidemment et avec nos outils de mettre ça en pratique en proposant à domicile une relation avec un intervenant qui va parler aux enfants
et
sa langue maternelle.
Et ce très tôt.
Et ce le plus tôt possible évidemment.
C'est notamment ce que disent les neurosciences, hein, qu'il faut apprendre les langues assez tôt.
Tout à fait. Il y a une logique très, comme vous le disiez, c'est physiologique. Le cerveau trie les informations qui lui sont nécessaires. Donc au début, les enfants ont la capacité de verbaliser, de générer tous les sons, et petit à petit, comme le cerveau n'est exposé qu'à certains, il va perdre la capacité de former les autres sons. Donc plus les enfants sont sollicités sur une échelle large, plus ils vont être capables de s'exprimer et de prononcer tous les sons de toutes les langues. Et c'est ça qui est intéressant.
Les voisins, les voisines, vous nous appelez si vous avez envie de participer. Le micro est à vous au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71. Et on va accueillir un voisin tout de suite.
7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète, 7 milliards de frères et de sœurs.
Bonjour Osana.
Bonjour Charles Dupio, bonjour à tous les voisins et les voisines.
On est ravis de vous accueillir Osana, vous êtes à N'Djamena, au Tchad, vous avez 27 ans, on vous écoute.
Oui, parlant de langue, moi j'ai la chance de connaître deux langues internationales qui sont le français et l'arabe. Alors, la langue française est d'abord notre langue officielle au Tchad. Et donc dès l'école primaire, on apprend à lire et à écrire en français. Donc c'est à l'école que j'ai appris le français, qui est la langue d'étude. Et ensuite, l'arabe, je me suis inscrit dans une école coranique pour apprendre surtout l'arabe littéraire, puisqu'il existe aussi l'arabe local. J'ai dans mon projet aussi d'apprendre deux autres langues internationales telles que le chinois et l'espagnol. J'aime ces langues grâce à leur tonalité et la manière dont je vois les gens parler dans les télévisions.
Et comment vous faites alors ? Est-ce que vous avez commencé à essayer d'apprendre ces langues ? Donc le chinois et l'espagnol ?
Non, je ne suis pas encore formaté, puisqu'actuellement je suis limité par les moyens. Mais plus, je pense que tôt ou tard, si j'aurai les moyens, je vais apprendre ces langues qui me tiennent vraiment à cœur.
Et vous regardez la télé en chinois, c'est ça ?
Justement, en chinois, souvent je mets les chaînes en chinois, malgré que je ne comprends pas bien le message, mais ça me donne le courage, j'ai envie d'écouter, quoi. Donc c'est ça qui m'a motivé à chercher, à apprendre, à connaître, à lire et à écrire la langue chinoise et l'espagnol.
Merci beaucoup Osana pour ce témoignage. Chantal Manès-Bonisso, là on a un voisin qui est amoureux des langues, manifestement.
Absolument, amoureux des langues, c'est exactement le mot que je relevais, les mots d'Osana, aussi ceux de Fanny dans le reportage au début, les mots rêve, le mot chance, le mot envie, le mot cœur, le mot motivation, tous ces mots reviennent quand on parle des langues vivantes, donc c'est au cœur, hein, c'est un moteur, hein, de l'apprentissage. Et puis aussi le fait que Osana ait déjà trois langues, bien entendu, va constituer un atout pour approcher ces autres langues qu'il a envie d'apprendre, le chinois et l'espagnol. Donc, c'est vrai qu'on constate que plus on maîtrise de langues, plus on a envie d'en maîtriser, et plus on a de chances que, encore une fois, le cerveau et les mécanismes cognitifs se mettent en place.
Mathias Benoît-Lévy.
Absolument. Et ça, la recherche en neurosciences l'a démontré, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les enfants sont exposés à plusieurs langues, tout de suite, dès leur plus jeune âge, la capacité à appréhender des nouvelles langues s'est installée, est en place, et les apprentissages des autres langues sont facilités et très 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 simplement les locuteurs peuvent apprendre des langues différentes, d'où l'intérêt de cette exposition précoce, fréquente et répétée.
Alors on va parler de l'apprentissage des langues au Sénégal. Nous sommes en ligne avec Sally Aïssatou, principale de collège à Sali, qui a enseigné l'anglais pendant près de 32 ans. Bonjour Sally Aïssatou.
Oui, bonjour madame.
Alors quelles étaient vos méthodes pour enseigner l'anglais au collège ?
Voilà, au début de ma carrière, j'ai utilisé la méthode CLAD. C'est un institut de langue qui était basé à l'université de Dakar, où la méthode audiovisuelle était la plus préconisée. Donc, l'enfant voyait, répétait, et nous avions un lecteur enregistré où ils écoutaient et ils répétaient. Bon, à la longue, le Sénégal a changé de méthode. On a utilisé la méthode ESTA, en English for French Speaking Africa, avec des textes écrits par des auteurs anglophones. Plus tard, ça a encore changé. Mais moi, je me dis qu'il n'y a pas une seule pédagogie. Il y a beaucoup de pédagogies. Et je m'adapte toujours aux situations. Et donc, j'ai privilégié les simulations, les scènes de vie, où l'enfant se retrouvait dans un milieu tout à fait naturel. Et ça m'a beaucoup aidée.
Par exemple, vous avez donné en fait des cours en plein air, c'est ça ?
Oui, j'ai donné des cours en plein air. Je suis allée dans des supermarchés où l'enfant découvre lui-même les produits à acheter, échange les prix. Par exemple, quand je parle de l'argent, je préfère qu'il y ait de la monnaie devant moi. Donc, c'est visuel. Parce que vous savez, dans l'apprentissage, il y a plusieurs types d'apprenants. On a l'enfant qui comprend à travers peut-être les sons, les images, etc. Et donc, j'associe les deux à la fois. Il m'est arrivé aussi d'enseigner en plein air pour planter un arbre, quels sont les produits à utiliser, comment utiliser l'eau, etc. Tout se faisait de manière tout à fait, comme on dit, learning by doing, l'apprentissage par l'action.
En les confrontant en fait à des situations de la vie réelle aussi.
De vie, voilà. Parce qu'il faut toujours se dire que, en fait, la classe, c'est un peu le monde en miniature. Il faut tout transporter de l'extérieur. Tout ce qui se fait, on le transporte en classe et l'enfant est plus intéressé puis se retrouve dans des situations qu'il a connues.
Et Sally Aïssatou, à quelles difficultés fait-on face quand on enseigne l'anglais au Sénégal, et notamment dans des classes parfois qui peuvent être surchargées?
Oui, la difficulté majeure peut-être c'est les effectifs, mais un bon prof d'anglais c'est peut-être naviguer entre les deux, essayer de faire des travaux de groupe, hein, comme je vous l'ai dit, mettre les enfants à l'extérieur des classes. Ce n'est plus le cours classique qu'il faut adopter, mais la pédagogie des grands groupes, les travaux de groupe, les simulations, etc. Ça, c'est quand même, l'effectif peut poser problème, mais un bon professeur pourra manager la situation et s'en sortir. La deuxième difficulté, c'est peut-être l'interférence avec les autres langues. Au Sénégal, nous avons une multiplicité de langues et souvent l'enfant comprend, et quand il est bloqué, quand il écrit ou quand il parle, il a tendance à utiliser la langue maternelle. Ça, c'est un grand frein quand même à l'apprentissage de l'anglais.
Merci beaucoup Sally Aïssatou, pardon, je vais y arriver, pour votre temps au téléphone. Je rappelle que vous êtes principale de collège à Sali au Sénégal, que vous avez enseigné l'anglais pendant 32 ans. Merci aussi à Osana pour son témoignage tout à l'heure. Alors, est-ce que vous voulez réagir à ce qui a été dit, Chantal Manas-Pénisson?
Merci, oui, moi je pense que c'est un excellent témoignage des différentes façons dont on peut aborder l'apprentissage des langues en milieu scolaire. Qui a bien signalé également les obstacles à franchir, mais qui a bien signalé également les différentes solutions. Ce que vous disiez, c'est planter un arbre, emmener des élèves planter un arbre, ça veut dire mettre les élèves en action. C'est learning by doing, c'est faire quelque chose. Et pour des enfants, plus ils sont jeunes, mais même à l'âge adolescent, et je dirais même pour les adultes, l'apprentissage est beaucoup plus efficace et accéléré si, effectivement, ce sont les apprenants, les personnes qui apprennent, qui font quelque chose, qui mettent en action et qui éprouvent le besoin de communiquer dans cette langue. C'est exactement la méthode que nous avons mis en place depuis 2006
Et dans le rapport, vous proposez notamment de passer aussi par le théâtre, par le chant,
absolument,
par d'autres activités que les cours.
Absolument. C'est un point très important dans la mesure où nous avons, et là j'anticipe un peu peut-être ce que certains enseignants ou certains auditeurs peuvent penser ou objecter, c'est que nous avons actuellement peu d'heures de langue dans le système éducatif français au lycée. Nous avons les élèves ont deux ou trois heures de langue en fonction de la série qu'ils suivent. Ce qui est important, c'est que ces horaires de langue soient complétés par des activités en langue, alors que ce soit dans d'autres disciplines, l'enseignement d'autres disciplines, nous en parlons beaucoup dans le rapport, qui existent déjà, c'est ce qu'on appelle les disciplines dites non linguistiques, c'est-à-dire l'histoire-géographie, les maths.
Donc on donne cours en anglais, en fait, par exemple.
En langue, je répète, en plusieurs langues, et pas uniquement l'anglais, mais dans une autre langue. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est effectivement d'organiser des activités en dehors des heures de cours ou pendant les heures de cours, en théâtre, en chant, en chorale, en EPS, en sport, toutes les activités que vous pouvez avoir la journée. Et puis, l'idéal, c'est qu'aussi cette exposition à la langue, elle soit non seulement dans l'école, mais en dehors de l'école. Et c'est là où les outils numériques prennent tout leur sens. On en parlera peut-être un petit peu après.
Les voisins, les voisines, vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71.
Les Français, pour moi, d'abord, il y a une sonorité très, très agréable.
Et nous sommes en ligne avec un fidèle voisin, Diderot, à Yaoundé. Bonjour Diderot.
Bonjour Charlie, bonjour.
Alors Diderot, vous enseignez l'espagnol, on vous écoute.
D'accord, dans l'enseignement de l'espagnol, j'insiste sur la compétence communicative. Et cette compétence, c'est un ensemble de sous-compétences qui inclut la compétence linguistique, la compétence socio-culturelle et la compétence socio-affective. Et en tenant compte du fait que l'enseignement des langues a deux étapes, c'est-à-dire l'enseignement et l'acquisition. Mmh. En classe, nous apprenons des choses aux élèves et le temps est très réduit, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas assimiler la langue facilement. Donc, nous développons l'acquisition en organisant au sein du club espagnol du lycée des excursions et d'autres activités parascolaires qui permettent d'être en contact avec les autres associations et durant lesquelles on parle exclusivement en espagnol.
Et pour vous, en fait, l'acquisition se fait vraiment aussi en dehors du contexte de la salle de classe.
Effectivement, en dehors des salles de classe, puisque quand nous faisons des excursions, nous sortons, nous visitons les lieux, par exemple l'ambassade d'Espagne au Cameroun. Quand on est là, il y a des Espagnols qui ne parlent qu'espagnol, donc avec les enfants, ils apprennent plus facilement en parlant uniquement espagnol. Et puis, une autre chose que nous faisons, c'est qu'à chaque fois, on associe à la langue les images. Les images, les sons, etc. Ce qui fait que l'enfant directement entre en contact avec la langue sans avoir besoin de passer par l'intermédiaire d'une autre langue. C'est plus facile comme cela.
Merci, merci beaucoup Diderot pour ce témoignage, Mathias Benoît-Lévy. Je crois que parmi les langues que les parents vous demandent d'enseigner à leurs enfants, il y a l'espagnol.
Bien
en
sûr.
Bonne position.
Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est assez nouveau au fil des années. Et je dirais, c'est, on a de plus en plus de demandes sur les langues qui ne sont pas l'anglais. Ce qui est assez, voilà, c'est assez intéressant. Et je pense que chez les familles avec lesquelles nous sommes en contact, il y a quand même quelque chose qui s'installe. Les langues, en général, apportent des choses aux enfants et pas forcément l'anglais. Ça, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où on est exposé à plusieurs langues, ça devient facile d'apprendre des langues suivantes. Je voudrais rebondir sur ce que disait notre auditeur et puis la fin de la conversation tout à l'heure. Je crois que toute la question, quand on essaye de transmettre une langue, c'est de savoir quel est le statut de la langue au moment où on l'utilise. Dans un enseignement très classique, très normatif, la langue est proposée comme un objet d'étude, c'est difficile, hein, c'est aride, et l'objectif aujourd'hui, et tout le monde, je crois, s'accorde pour aller dans ce sens, c'est dans les processus de transmission, essayer de redonner à la langue son statut tout simplement d'outil de communication, et sortir les élèves de la classe pour aller au marché, pour aller dehors, pour aller planter des arbres.
La rendre vivante, en
fait. La rendre vivante, essayer de multiplier les interventions comme vous le proposez dans ce rapport, 20 minutes par jour, 5 fois par semaine, ça tend à donner à la langue... une légitimité comme un outil de communication pour entrer en contact avec un intervenant qu'on fréquente 5 fois par semaine et avec lequel on a envie d'échanger des choses, on a envie de parler. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que c'est une nouvelle direction dans la transmission des langues.
Alors on va accueillir un autre voisin, Boris, à Cotonou. Bonjour Boris.
Bonjour les voisins, cette meilleure voisin.
On vous écoute Boris.
La langue maternelle doit être préservée car elle représente l'identité de l'individu. Mais en Afrique et plus particulièrement au Bénin, les langues étrangères prennent plus de place que nos langues maternelles. Par exemple, dans notre constitution au Bénin, la seule langue inscrite est le français. Or, nous sommes dotés d'une multitude d'ethnies. Et je passe par exemple le Minang, le Fon, le Gon, un peu le Yoruba. Mais tout au moins le Fon, qui est une langue que plus de 90% des Béninois comprennent, ne figure même pas dans notre constitution. Mm. Pour une illustration, je suis originaire de Dafazoumé, une ville de collines du Bénin, où on parle le Hidatcha. Mais je suis incapable de dire un seul mot dans cette langue.
Vous regrettez en fait cet abandon des langues locales.
Voilà, justement. Pendant ce temps, il y a par exemple l'anglais qui, depuis le début de la rentrée scolaire 2007-2018, est instauré dans notre système, dans le programme du primaire. C'est vrai que la langue anglaise, c'est une langue qui permet l'intégration facile sur le plan international. Mais cela ne doit pas nous empêcher de mettre en valeur nos langues.
C'est très intéressant ce que vous dites. Merci, merci beaucoup, Boris. Mathias Benoît-Lévy, vous voulez réagir ?
Oui, c'est tout à fait vrai. L'enracinement dans la langue maternelle est quelque chose de fondamental. Alors, j'ai une anecdote pour l'illustrer. Chez Babylang, on a travaillé dans une crèche. On avait une intervenante qui était présente un matin par semaine. À raison d'une demi-heure par enfant, c'était un groupe d'une trentaine d'enfants, et au fil des semaines, les enfants, je dirais, rapportaient de l'anglais à la maison. C'était une banlieue parisienne où il y avait des familles originaires de différents pays, et l'arrivée d'une langue différente au sein de la famille a poussé les parents à reprendre leur propre langue maternelle et à se remettre à parler à leurs enfants dans leur propre langue et non plus dans un français qu'ils ne maîtrisaient pas forcément très très bien. Et ça a rééquilibré les relations au sein des familles. Et ça, je dirais, c'est un effet incroyable de juste par une exposition d'une demi-heure hebdomadaire à la langue. Les gens de la crèche nous disaient, on voit des familles qui reviennent vers nous en nous disant que les relations à la maison sont plus simples, s'apaisent, se calment, juste parce que les parents avaient repris le contrôle sur leur langue maternelle. Donc effectivement, le propos de cet auditeur est tout à fait vrai. Il faut s'enraciner dans sa langue maternelle et transmettre ses émotions à travers l'utilisation de sa langue maternelle
qui est
légitime, bien sûr.
Chantal Manette-Bonisseau.
Je suis tout à fait d'accord. Je voudrais juste citer l'exemple de l'Irlande que nous mentionnons dans le rapport. Et c'est très intéressant, l'Irlande a une politique des langues que je trouve très intéressante parce qu'elle est à la fois ancrée dans la langue maternelle ou la langue première qui est la langue gaélique. Ils ont développé des programmes d'enseignement bilingue gaélique-anglais dans un certain nombre d'écoles d'Irlande. Et en même temps, ils ont une politique des langues qui ouvre vers les langues européennes, les langues étrangères, donc européennes, pour marquer à la fois leur volonté de s'ouvrir vers le monde. Donc il y a à la fois cet ancrage et cette ouverture vers le monde. Et je trouve que c'est un exemple très intéressant.
Les voisins, les voisines, vous nous appelez en français, en anglais, en espagnol, comme vous voulez, au 33 1 84 22 71 71. Quelle langue avez-vous apprise ? Que regrettez-vous dans l'apprentissage des langues telles qu'il est pratiqué dans votre pays ? Vous restez avec nous, mais d'abord, les Beatles, eux aussi, aiment mélanger les langues. Sun King, c'est sur RFI et c'est maintenant. Nous nous parlons de l'enseignement des langues aujourd'hui dans 7 milliards de voisins. Avec nous, Chantal Manès-Bonisseau, inspectrice générale de l'éducation nationale, co-auteur d'un rapport sur le sujet remis au gouvernement en France. Également avec nous, Mathias Benoît Lévy, cofondateur de Babylang, un organisme qui propose des cours de langue sous de multiples formes pour enfants et même pour bébés. Alors, quelle richesse nous apporte le bilinguisme et même aller le multilinguisme? Comment en tirer profit pour sa vie personnelle et professionnelle? Et puis, comment éviter la disparition des langues dites vernaculaires, notamment des langues locales africaines? On en parlait avec Boris tout à l'heure, un voisin qu'on a entendu. Et si une partie de la réponse passait par le numérique? Je vous propose d'écouter à ce sujet Elisabeth Kperun. Cette entrepreneuse nigériane a créé l'appli Zenafri. C'est une appli en fait sur mobile pour mieux enseigner certaines langues étrangères.
It's an app that teaches toddlers and preschoolers.
C'est une appli qui enseigne aux tout-petits et aux élèves de maternelle leurs premiers mots en anglais et en langue locale. Nous proposons d'apprendre les langues principales du Nigeria, le Hausa, le Igbo, le Yoruba, et puis aussi le Swahili, qui est la langue la plus parlée en Afrique de l'Est et dans le sud du continent.
When we created the app, the idea behind it was to preserve or to teach.
Quand nous avons créé cette appli, l'idée était de préserver les langues africaines indigènes en les transmettant aux enfants. Car avec la mondialisation, on réalise que les enfants issus des classes moyennes, et notamment des classes aisées, perdent le contact avec les cultures et les langues indigènes. Nous voulions proposer une solution aux parents qui ont envie d'enseigner ces langues-là à leurs enfants. Et depuis le lancement de notre appli, nous avons constaté que certains enfants l'utilisaient dans un autre but, apprendre l'anglais. Notamment, des enfants nés dans un milieu social moins favorisé et qui ne fréquentent pas de bonnes écoles.
Less privileged backgrounds and do not attend good schools because if you want to, there are schools in Nigeria.
Ils vont dans des écoles et il y en a au Nigeria où on n'enseigne pas en anglais. Les cours sont donnés en langue locale. Et il n'y a pas de professeur d'anglais dans ces écoles. Ces élèves ne parlent donc anglais ni à la maison, ni à l'école. Ils grandissent en étant désavantagés. Au Nigeria, si vous voulez faire du business avec des gens d'autres ethnies, ou même à l'étranger, c'est essentiel pour pouvoir communiquer de savoir parler anglais. Sur notre application, on peut donc apprendre l'anglais et ses quatre langues locales. Elle a déjà été téléchargée plus de 20 000 fois et les données nous montrent que nous avons 5 000 utilisateurs actifs quotidiens. C'est beaucoup. Pour l'instant, notre appli s'adresse aux enfants en maternelle ou plus jeunes. Elle permet seulement d'apprendre les premiers mots dans toutes ces langues, mais nous travaillons aussi sur un projet de série télé pour atteindre les enfants qui n'ont pas accès à un smartphone. Et progressivement, nous allons nous adresser à de plus en plus d'enfants dans une tranche d'âge plus large au Nigeria.
Alors, qu'est-ce que cette appli au Nigeria vous inspire, Chantal Manès-Bonisseau?
Écoutez, je félicite cette dame pour cette initiative que je trouve intéressante parce qu'elle répond à ce que nous venons de dire, c'est-à-dire l'importance de préserver les langues maternelles des enfants, qui sont visiblement même pas une mais plusieurs, et en même temps de les amener à au moins maîtriser les premiers mots, un peu de lexique de base en anglais, qui est la langue de communication.
Et ce n'est pas irréconciliable en fait, c'est possible.
Ce n'est pas du tout irréconciliable, encore une fois. Pas du tout. Et toutes les études, tous les travaux d'expérimentation depuis des années montrent bien cela, qu'un enfant qui est à l'aise dans sa langue maternelle, qu'on ne laisse pas à la porte de l'école, aura beaucoup plus de facilité, tout simplement parce qu'il est en capacité d'apprendre. On a parlé d'approche affective de la langue et c'est très connu.
On en vient aussi au rôle du numérique. En quoi les écrans peuvent aider à l'apprentissage des langues, selon vous ?
Alors pour moi, le numérique, c'est l'apport essentiel du numérique, c'est pas l'écran, c'est le fait qu'on peut apprendre dans beaucoup de situations à distance et qu'on peut par conséquent augmenter moi j'appelle ça faire venir le locuteur natif dans la maison ou dans la classe ou dans l'environnement dans lequel on est, parce que avec les outils numériques, vous pouvez parler à un germanophone, même s'il est très loin, par vidéo, vous pouvez le voir, vous pouvez l'entendre, vous pouvez voir son environnement, vous pouvez avoir des documents authentiques, donc être déjà exposé à l'oreille à une langue authentique. Vous pouvez avoir des images qui vous montrent quelle est la culture réelle du pays dont vous voulez apprendre la langue. Donc,
avec des dessins animés, hein, notamment.
Vous avez la possibilité d'avoir des outils ludiques, donc de motiver les enfants, encore une fois, dès le plus jeune âge, mais aussi à l'adolescence, parce que la motivation, elle est peut-être plus naturelle chez un enfant de 5 ans qu'un adolescent de 13 ans. Donc, ça vous donne des outils, le numérique, qui sont précieux et bien entendu qu'il faut développer.
Mathias, Benoît, Lévy, vous faites appel, vous, au numérique avec Babylang ?
Alors, non, nous, on a fait le choix de rester sur des outils et des supports, je dirais, plus classiques. Les activités qu'on propose aux enfants tournent beaucoup autour du papier, du collage, du découpage, de l'agrafage. C'est des choses très, très, très concrètes. Mais on peut se permettre ça parce que, justement, ça s'inscrit dans le cadre d'une relation. Il y a l'intervenant qui est là, qui est en face de l'enfant, qui est avec lui, qui l'aide à faire ses activités. Voilà, c'est un choix qu'on a fait, mais il est évident que les outils numériques sont très très intéressants pour accompagner cette démarche, peut-être la prolonger en l'absence de l'intervenant. Ce sont des supports riches, mais nous, pour l'instant, on a fait le choix de rester dans le cadre de cette relation.
Alors, que peut-on apprendre de l'exemple des pays d'Europe du Nord, comme la Suède, hein, qui est très performante de ce point de vue-là? Je vous donne un chiffre, 82% des élèves suédois sortent du collège avec un bon niveau en anglais, contre 14% en France. Chantal Menez-Bonisseau, qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre dans cet exemple suédois ?
Alors, bien sûr, nous avons voulu comprendre en détail ce qui faisait que les Suédois, et aussi les Pays-Bas. Les Pays-Bas, non, vous mentionnez encore une fois l'enquête européenne qui a été menée dans 16 pays européens, où les élèves ont été interrogés sur les deux langues les plus enseignées dans le pays. La Suède est excellente en anglais, c'est le premier rang de la classe européenne en anglais, mais vous avez peut-être remarqué aussi que c'est le dernier dans la deuxième langue étudiée, qui est l'espagnol. Donc ça donne beaucoup, beaucoup de réflexions. D'abord, les Suédois sont très bons en anglais parce qu'ils ont bien sûr un enseignement qui est très bon, c'est indéniable. Ils ont également un autre facteur qui est que l'environnement dans lequel baignent les citoyens suédois, et pas uniquement les enfants, mais tous les citoyens suédois, est très, très, très anglophone. Et je parle de la télévision, mais pas uniquement la télévision. Je parle de la rue, je parle de la vie quotidienne. Il y a une étude d'une universitaire des Pays-Bas qui a montré que aux Pays-Bas, comme en Suède, on a le sentiment de vivre dans un pays dont la langue est l'anglais. À tel point même que les Pays-Bas commencent à s'en inquiéter un petit peu, parce que les études supérieures aux Pays-Bas sont très souvent en anglais, et donc les universitaires commencent à se demander si la langue néerlandaise ne serait pas elle-même un peu menacée. Donc c'est un peu le tout anglais à l'école, mais également dans l'environnement quotidien, qui explique en grande partie cette très bonne compétence en anglais de ces pays.
On parle de l'apprentissage des langues aujourd'hui dans 7 milliards de voisins, et on va accueillir une voisine tout de suite.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Bonjour Agathe.
Bonjour.
Vous êtes à Clay, aux États-Unis, où je pense qu'il est très tôt, là, ce matin. On vous écoute.
6h40 du matin.
Ah bah merci de nous appeler aussi tôt. Alors vous êtes donc francophone et vous parlez un tas d'autres langues.
Oui, je parle 4 langues. Je parle le créole, le français, l'espagnol et puis l'anglais.
Vous avez grandi en Haïti, c'est ça?
Oui, j'ai grandi en Haïti jusqu'à l'âge de 21 ans. Et j'ai grandi aux États-Unis à 21 ans.
Et alors, quel bilan vous pouvez dresser un petit peu des cours que vous avez reçus en langue? En anglais notamment, puisque vous vivez aux États-Unis maintenant.
Oui, mais c'était très difficile d'apprendre l'anglais en Haïti car le peuple ne parle pas l'anglais. Imaginez qu'on vous apprend l'anglais en français. Je peux le lire, l'écrire, mais je ne peux pas le parler.
Ah oui, compliqué. Et donc, vous vous êtes mise vraiment à l'anglais en vous installant aux États-Unis, c'est ça?
Zéro, nul. Je peux l'écrire, mais je ne comprends rien du tout. parce que je pense que tout le monde parle de même voix à cause de l'accent. Alors, c'est très difficile. Les six premiers mois.
Ouais, six premiers mois est difficile. Vous ne compreniez pas l'accent aussi, peut-être, américain?
Non. Oui, très difficile.
Merci beaucoup Agathe pour ce témoignage qui nous amène à une question intéressante, Chantal Manès-Bonisso, celle de la formation des enseignants qui ne sont pas souvent des locuteurs natifs et pourtant ce sont eux qui nous transmettent la langue. Alors qu'est-ce qui est prévu de ce point de vue-là ?
Alors, ce ne sont pas des locuteurs natifs pour une part, mais ce sont des personnes qui ont été formées, dont le niveau de langue a été non seulement vérifié, mais sélectionné par des concours très difficiles. Donc, leur niveau de langue n'est pas du tout à remettre en cause. Et leur formation les amène à certainement parler la langue qu'ils enseignent en cours. Un professeur d'anglais parle anglais en cours et pas français aux élèves. Ça, c'est une chose que je suis très à l'aise pour affirmer. Je m'intéresse beaucoup à ce témoignage d'Agathe qui est de Haïti, parce qu'il faut que vous sachiez, Agathe, si vous nous entendez, que nous avons créé aux États-Unis des programmes bilingues français-anglais pour les enfants qui viennent de Haïti, de façon à ce qu'ils n'oublient pas le français, puisque beaucoup d'enfants haïtiens sont francophones. Et donc l'ambassade de France aux États-Unis l'a fait, et à New York notamment. Bon, ça c'était juste pour une petite information. Mais voilà.
Qu'est-ce que vous préconisez par rapport à la formation des enseignants ?
Alors, la formation des enseignants, je pense qu'elle doit être très très accentuée pour le premier degré, notamment. C'est ce que le rapport préconise.
Donc le primaire.
Formation, oui, initiale des professeurs du premier degré. Il faut dire que les professeurs du premier degré font un effort considérable et se sentent parfois un peu démunis pour enseigner une langue. Hein, c'est obligatoire à l'école primaire depuis 2002 en France, mais ils n'ont pas toujours pu acquérir les compétences, cette fois en langue, dans la mesure où ils n'ont pas d'épreuve au concours d'accès aux professeurs des écoles. Donc nous avons proposé un certain nombre de solutions pour faire monter en compétences nos professeurs du premier degré, de façon à ce qu'eux-mêmes soient mieux armés. Ils ont aujourd'hui des formations, mais qui sont insuffisantes, et nous avons fait un certain nombre de préconisations, donc peut-être modifier un peu le concours de recrutement pour qu'il y ait plus de langues, augmenter le nombre d'heures en formation initiale pour la formation des enseignants, et puis également, et le ministre l'a dit à nombreuses reprises, le ministre Jean-Michel Blanquer, qu'il est vraiment important de donner une dimension internationale à
avec
la formation des enseignants,
avec
une mobilité des enseignants, alors en début de carrière, avant de devenir professeur, mais également, bien entendu, en formation continue. Et là, nous travaillons beaucoup avec les instances européennes, notamment, pour que ces portes soient ouvertes et que ce soit de plus en plus possible pour de professeurs de plus en plus nombreux.
Alors, vous préconisez aussi dans ce rapport des séances en langue moins denses, mais plus fréquentes, notamment à l'école primaire, avec des cours de langue de 20 à 25 minutes par jour. Pourquoi une fréquence aussi quotidienne est-elle importante ?
Nous considérons que, je crois que on n'est pas, Alex Taylor et moi ne sommes pas les deux seuls au monde, que les langues, c'est un peu comme la musique. Il faut faire un peu ces gammes tous les jours. On a dit très tôt, mais on a dit aussi souvent. Et c'est bien connu. D'ailleurs, les personnes que nous avons entendues aujourd'hui sont des personnes qui vivent dans des milieux multilingues, donc qui sont exposées aux langues constamment, souvent par différents moyens. Donc quand on est dans un milieu scolaire français et qu'on ne vit pas dans une famille bilingue, eh bien le mieux, nous semble-t-il, c'est effectivement de pouvoir avoir un peu de 20-25 minutes par jour dès les petites classes, hein, puisque au collège, ensuite, c'est un peu différent.
Mathias Benoît-Lévy.
Oui, tout à fait. Je vais absolument dans votre sens. À partir du moment où on arrive à mettre en place une exposition régulière, fréquente, on peut viser une excellente maîtrise d'une langue étrangère si on s'inscrit dans ce processus. Tout à fait, c'est tout à fait possible.
Alors on va accueillir un dernier voisin, Ghislain à Parakou au Bénin. Bonjour Ghislain.
Bonjour.
On vous écoute, Ghislain.
Ok. J'ai suivi votre émission depuis le matin, puis vraiment, ça me fait plaisir.
Pas tant mieux, merci.
Et voilà, vous savez, au Bénin, notre langue de travail, c'est le français. Donc, du coup, moi, j'ai pas eu de grandes difficultés à apprendre la langue française, à m'exprimer, et puis je me débrouille très bien. Mais vous aviez dit au début de cette émission que lorsqu'on est enfant, on a plus de facilité à comprendre les langues. Ça n'a pas été mon cas, moi. J'ai grandi à Porto-Novo, la capitale du Bénin, tout petit, mais les langues comme Yoruba, le Bon, à côté de moi, j'ai grandi dans la maison où on parle toutes ces langues. Moi, je n'ai pas pu comprendre pendant 18 ans ces langues. Maintenant, pendant mon cursus scolaire, arrivé en 6e, on nous a mis l'anglais au programme, j'ai du mal à assimiler. Maintenant, aujourd'hui, à l'âge adulte, je me rends compte que l'anglais est indispensable. Si tu fais même certaines activités, moi je suis un reporter, je suis un réalisateur cinéma, donc j'ai besoin de comprendre l'anglais. Je fais des efforts aujourd'hui, j'achète des bouquins, je lis, j'arrive à lire, j'arrive vraiment à lire, mais je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas formuler facilement une phrase. Je ne peux pas insérer tout ce que je lis dans ces bouquins, dans mes expressions, pour parler couramment l'anglais. Est-ce que vous avez une méthode plus pratique à me conseiller? Parce que vraiment, moi, particulièrement, j'ai des difficultés à comprendre les langues.
Et pourtant, vous avez envie d'apprendre l'anglais. Merci Ghislain pour ce témoignage et puis pour cette question alors que je vous adresse, Chantal Manès-Bonisseau. Effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut apprendre une langue en étant adulte?
Voilà, en étant adulte et puis en étant dans un milieu où qui n'est pas où on n'a pas beaucoup d'anglophones, en l'occurrence c'est l'anglais, autour de soi. Donc c'est là où le numérique prend tout son sens. C'est-à-dire, soit on peut prendre l'avion et aller s'immerger à Londres pendant quelques mois, soit on ne peut pas, ce que beaucoup de gens ne peuvent pas faire. Et à ce moment-là, c'est vrai que le pouvoir avoir un correspondant, par exemple, dans un pays anglophone avec lesquels on peut échanger régulièrement par les Skype ou par les outils oraux, parce que ce qu'il faut, c'est pratiquer la langue. Il faut trouver un moyen d'avoir un contact avec un locuteur natif avec qui on puisse parler et écouter. Puisque ce que souligne vraiment Ghislain, c'est qu'il peut comprendre l'anglais écrit, mais il manque de pratique à l'oral. Donc il faut qu'il puisse écouter la radio et trouver un correspondant anglophone avec qui échanger.
Et ce qu'on entend aussi avec tous ses voisins, toutes ses voisines, c'est qu'il parle de nombreuses langues au quotidien, qu'il compose avec toutes ces langues au quotidien. Mathias Benoît-Lévy, peut-être le mot de la fin, peut-être un conseil pour des parents qui voudraient familiariser leurs enfants à d'autres langues?
Toutes les langues, c'est ça qui est intéressant. Peu importe, toutes les langues se valent. Toutes les langues apportent leur manière. Chaque langue apporte sa manière de voir le monde, de structurer le monde. Et plus on s'ouvre à des langues différentes, plus le cerveau va être capable d'appréhender une réalité, de faire face à des difficultés. Et tout ça, évidemment, dès le plus jeune âge.
La richesse du multilinguisme. Merci beaucoup à tous les deux. Mathias Benoît-Lévy, merci également Chantal Manès-Bonisseau d'être venue dans notre studio. Merci à toute l'équipe qui toute cette semaine a préparé cette émission. Nicolas Benita à la réalisation, Sigrid Azerwal, Yann Leni en coulisses. Merci également à Inès Edel Garcia et à Didier Chérouz. Et merci, bien sûr, comme toujours à vous, les voisins et les voisines, pour votre écoute et pour vos appels. Lundi, Emmanuel Bastide revient derrière le micro pour vous parler d'innovation low-tech, comme on l'appelle, des technologies simples, locales, mais durables. Bref, l'art de la débrouille. Moi, je vous dis à très bientôt, les voisins. Et tout de suite, c'est RFI Midi sur RFI.